et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios valdoisiennes en Ile-de-France, à écouter en FM sur la fréquence 98.00, en web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Ile-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Jacqueline Voraz avec Nicolas à la technique. Bonjour Nicolas. Merci d'être à notre écoute pour ce nouveau rendez-vous de l'économie en direct. Une émission à écouter en podcast, comme bon vous semble, sur notre site idfmradio98.fr. Et si ce matin nous parlions de qualité de vie dans le Val d'Oise, qu'il s'agisse d'un festival dédié au bien-être ou de l'engagement du conseil départemental pour améliorer la mobilité et le développement urbain dans le Val d'Oise, explorons à travers ces deux thématiques ce concept si important aujourd'hui qu'est la qualité de vie. Et pour en parler ensemble pendant 90 minutes, ce matin, vendredi 20 juin 2025, j'ai le plaisir d'accueillir, alors je devrais accueillir Maya Parent, praticienne en médecine traditionnelle chinoise à la maison de l'Embellie, vice-présidente de l'association Santé Essentielle. Mais Maya est encore dans les bouchons, donc nous l'attendons d'une minute à l'autre. Mais bien avec nous, Catherine Bariol, animatrice d'un atelier de marche afghane et de la sylvothérapie. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Et à vos côtés, donc chacune, vous êtes dans nos studios pour présenter le Festival des Arts et du Mieux-être Santé Essentielle à travers une journée immersive d'essence qui aura lieu le dimanche 22 juin à l'abbaye de Maubuisson de 9h30 à 19h. Et à vos côtés, Anthony Arciero, conseiller départemental délégué aux routes et au Grand Paris. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Avec nous ce matin pour nous dire combien et comment le conseil départemental du Val d'Oise s'efforce de créer un environnement où les habitants peuvent non seulement se déplacer plus facilement, mais aussi vivre de manière plus saine et heureuse. Merci donc à tous les deux pour le moment d'avoir accepté mon invitation et d'être les invités en direct de IDFM Radio. Juste avant de vous donner la parole, je vous propose de retrouver maintenant par téléphone Gérard Vespierre, notre conférencier valdoisien en géopolitique et toujours prêt avec sa chronique « Décryptons le monde » à analyser l'actualité internationale.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Bonjour Gérard.
Ah bonjour ma chère Jacqueline, je salue également vos invités et tous nos auditeurs.
Gérard, à la suite de l'intervention israélienne sur les installations nucléaires iraniennes, le sujet du jour de votre chronique était quasiment incontournable et son titre « Israël a osé » reflète à la fois la surprise et l'importance de l'événement. Est-ce que vous-même, vous vous attendiez à cette spectaculaire intervention israélienne ?
Ah, vous me connaissez bien, Jacqueline, j'essaie dans mes analyses d'être factuel et précis. Ma réponse sera donc concise, non. Sur cette question du nucléaire militaire iranien, il y avait des négociations difficiles, certes, en cours entre les États-Unis et la République islamique d'Iran. Des pressions extérieures étaient exercées sur la partie iranienne par le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, signalant le non-respect par le régime iranien de l'accord de non-prolifération auquel il a souscrit. Des menaces d'intervention étaient clairement lancées par le gouvernement israélien, mais perçues justement dans le cadre de pressions pour négocier. Le passage inattendu à des frappes israéliennes pleure sur les installations nucléaires reliées au programme militaire iranien a été pour tous les observateurs une totale surprise, d'autant que le président américain se montrait positif sur l'issue des négociations avec le régime de Téhéran.
Comment expliquer alors la décision de l'État israélien de déclencher une attaque militaire aussi forte, incluant des frappes sur des installations et le ciblage de hauts responsables iraniens en vue de leur élimination ?
Eh bien, il y a plusieurs sacs d'explications à cette intervention. En premier lieu, les États-Unis et Israël ont toujours été très clairs dans leur volonté absolue de tout faire pour que le régime iranien n'obtienne pas l'arme nucléaire. Pour atteindre un tel objectif, il y a deux chemins, l'un diplomatique, l'autre militaire. L'option des frappes représentait toujours une possibilité et le gouvernement israélien ne s'en est jamais caché, pas même tout au contraire. En deuxième lieu, il faut savoir que depuis une vingtaine d'années, les États-Unis et Israël ont bâti une coopération de renseignements de façon à ce que l'Iran n'atteigne pas l'arme nucléaire. En deuxième lieu, il faut que depuis une vingtaine d'années, donc il y a cette collaboration sur les recherches nucléaires et le programme était vraiment un programme destiné aussi à l'action. La célèbre usine d'enrichissement d'uranium à Natanz a été l'objet de cyberattaques préparées par Israël et les USA entre 2008 et 2010. Oui, il y a déjà une quinzaine d'années. Le Conseil national de la résistance iranienne, le CNRI, avait révélé au gouvernement américain l'existence d'un programme nucléaire militaire secret voulu par le régime. Puis, de 2010 à 2012, quatre autres responsables scientifiques iraniens ont été physiquement éliminés, deux autres blessés par des opérations de commando à Téhéran même. Ces deux opérations avaient été désignées sous le nom de code de torche et Jeux Olympiques. Mossad et CIA peuvent aussi se laisser aller à l'humour. Enfin, il faut ajouter qu'il faut toujours prendre en compte la règle numéro 1 de l'art de la guerre, la surprise. C'est en attaquant par surprise l'adversaire que vous avez la plus grande chance de réussir votre attaque. Ce fut le cas avec l'attaque israélienne dans la nuit du 12 au 13 juin.
Merci Gérard. Alors vos mots, je remarque, évoquent surtout le régime iranien et non pas l'Iran. Faites-vous volontairement le distinguo ?
Eh bien, Jacqueline, je rends hommage à la qualité de votre écoute, car effectivement, je prends soin de faire cette différence, car elle est fondamentale dans la compréhension globale de cette situation. Le régime impérial, avec le Shah d'Iran, donc antérieur au régime religieux actuel, entretenait de bonnes relations avec Israël et avait reconnu très tôt son existence. C'est le régime religieux actuel des mollahs, le régime de la République islamique d'Iran, qui a déclenché cette haine envers Israël et entrepris depuis maintenant 46 ans tout ce qui lui était possible de faire pour mettre fin à l'existence d'Israël. Donc, historiquement, le peuple iranien, l'Iran, n'a jamais été l'ennemi d'Israël. C'est le régime actuel à Téhéran qui a créé cette situation. Je lui en donne donc pleinement la responsabilité.
Gérard, il y a quand même un élément, moi, qui me frappe dans cette situation. L'Iran met souvent en avant ses partenariats et accords stratégiques avec la Russie et la Chine. Un accord stratégique crée forcément un lien fort. Vous l'avez évoqué avec nous. Or, de façon surprenante, ni la Russie ni la Chine ne volent au secours de leurs partenaires en ce moment.
Perspicace analyse, Jacqueline. Je suis ravi de répondre à cette question qui n'est pas du tout abordée dans les médias. Seul IDFM montre cette lucidité. La Chine et la Russie, pour des raisons différentes, n'ont jamais souhaité une situation militaire nucléaire pour l'Iran. Pékin considère qu'un tel choix encourage une course nucléaire militaire dans la région. Et donc l'Arabie Saoudite, l'Égypte souhaiteraient alors se doter d'une telle arme déstabilisant tout le Moyen-Orient. Du côté de Moscou, il faut savoir que depuis 200 ans, l'Empire russe et l'Empire perse ont été de sérieux adversaires. Le Kremlin ne souhaite donc pas voir une arme nucléaire iranienne un jour potentiellement hostile à moins de 3000 kilomètres de Moscou. Dans la réalité géoéconomique, en plus, Iran et Russie, tous deux très grands réservoirs de gaz et de pétrole, sont des fournisseurs en concurrence du vaste marché européen. À nouveau, aucun intérêt pour la Russie de voir un Iran nucléaire. Ni l'un ni l'autre, ni la Russie ni la Chine n'ont aidé Téhéran, ce qui explique la lenteur des progrès iraniens à l'inverse de la Corée du Nord, aidé par l'un, voire les deux.
Alors avant de clore notre échange, la question que tout le monde doit se poser en ce moment, maintenant, que risque-t-il de se passer ?
Chine et Russie ne veulent pas d'une déstabilisation de la région et une extension du désordre à l'approvisionnement pétrolier mondial. L'Europe et les États-Unis veulent un arrêt de l'affrontement militaire. Ces quatre puissances étant d'accord, les armes devraient rapidement se taire. Telle est ma conclusion logique. Le régime iranien ne pourra rester en dehors des négociations. Mais, après la chute de ses alliés régionaux, Hezbollah, Hamas, régime syrien et ses difficultés économiques et sociales récurrentes, le voici à nouveau affaibli, ce régime iranien, sur un point essentiel à sa survie. Le peuple devrait faire en sorte que le guide suprême, Ali Khamenei, soit le dernier dirigeant de la République islamique d'Iran. Le peuple, la jeunesse, les femmes ont soif de liberté.
Merci Gérard pour cet éclairage sur l'Orient compliqué et meurtri. Souhaitons que votre analyse positive rejoigne les faits. C'est ainsi que se termine votre chronique Décryptons le monde. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs qu'ils peuvent retrouver vos articles et interventions sur votre site www.lemondedécrypté.com. L'abonnement y est gratuit. Merci Gérard Vespierre. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour la nouvelle saison et je vous souhaite un été pacifié.
Merci Jacqueline, j'y veillerai.
Merci, au revoir. Un peu de musique avant de poursuivre notre émission.
Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau, jusqu'à la fois de trop. I should have gone home. How hard can it be to say no? Chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau, car du mal je m'en fais aussi. J'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game. Wish I could just let it be. Should've left but I did it again. And now it all fires back in me. Je fuis ton regard, de peur qu'il soit trop tard. I should've gone home. How hard can it be to say no? Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire non. Feels like I've been looking everywhere just to find out that it's you. Je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire no. No, I should have gone home.
BFM Radio, bien plus qu'une radio.
C'est bien l'économie en direct, une émission consacrée ce matin à la qualité de vie dans le Val d'Oise, avec à mes côtés Maya Parent, praticienne en médecine traditionnelle chinoise à la Maison de l'Embellie, vice-présidente de l'asso Santé Essentielle. Bonjour Maya.
Bonjour.
Catherine Bariol, qui propose un atelier de marche afghane et de sylvothérapie, et Anthony Arciero, conseiller départemental délégué aux routes et au Grand Paris. Maya Parent, quelques mots pour vous présenter à
oui,
nos auditrices et auditeurs.
Merci de nous recevoir.
Je vous en prie.
Pour parler de ce beau projet. Donc nous avons créé une structure pour avec monsieur Monti en 2018, je crois, qui s'appelle Santé Essentielle, qui est un réseau, on va dire, de praticiens de bien-être dans le Val d'Oise. Et l'idée, c'était de pouvoir offrir à un public un lieu de découverte, de rencontre, de ces techniques de soins, de prise en charge de sa santé, de son bien-être, avec des techniques un petit peu différentes, on va dire, qui nécessite justement une certaine curiosité et d'aller chercher pour rencontrer et pour prendre soin de soi. Donc on a créé cette association avec Pierre Monti. Rapidement, on s'est entouré d'un certain nombre de praticiens de santé et du bien-être. Et puis on a d'abord créé un premier événement qui était un salon. Chaque année, on propose un salon, d'abord à Ennery, puis à Pontoise. Et puis l'année dernière, avec l'équipe du bureau, on s'est un peu lassé, je crois, de cette forme de présentation d'événements. On avait envie de quelque chose de plus dynamique, de plus vivant, de plus expérientiel.
C'était un salon sur deux jours, hein, je crois.
Voilà. Et le salon, c'est... Et puis aussi, parce qu'on a vu qu'il y avait une diversité de propositions un peu dans pas mal de villes du Val d'Oise, et l'envie d'innover, de changer, de faire autre chose. Et du coup, on est parti sur ce projet de festival dans un cadre absolument somptueux qui est l'abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen-l'Aumône.
Oui, très voilà. Bien. Donc, qu'est-ce que... Alors, on va peut-être, avant de parler du salon, peut-être vous, votre spécialité, donc c'est la médecine traditionnelle chinoise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste et quels sont les principes fondamentaux ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. La médecine chinoise, c'est une médecine, on pourrait dire, traditionnelle, très très ancienne, basée sur cette notion d'énergie, de souffle. Souffle est plus intéressant parce que ça induit la notion de dynamique, de mouvement. Donc l'idée, c'est que nous sommes traversés par ce souffle, par cette énergie, qui circule de manière extrêmement organisée dans des canaux qu'on appelle des méridiens, sur lesquels il y a des points qui ont des fonctions. Et l'idée, si vous voulez, du praticien de médecine chinoise, c'est de rétablir, d'abord de déceler un éventuel déséquilibre et ensuite de rétablir cet équilibre afin que le corps reprenne ses forces vitales dans le bon ordre, on va dire, et que le patient ressente un mieux-être, un meilleur fonctionnement global et un mieux-être physique, psychique, émotionnel. Donc c'est vraiment réinvestir le corps, être à l'écoute de ce possible déséquilibre, plus ou moins important, plus ou moins ancien, et de rétablir, grâce au point sur ses méridiens, cette sensation d'écologie personnelle, en fait.
Et vous-même, vous pratiquez cette discipline depuis longtemps ?
Oui, ça va faire 15 ans que je pratique à Pontoise, avec toujours la même joie, le même émerveillement, parce que je trouve que cette médecine, en fait, c'est l'étude de la vie, quoi, du vivant. Donc, c'est sans fin et c'est absolument merveilleux.
Et comment avez-vous fait pour pratiquer ? Vous avez suivi une formation ?
Bien sûr. J'ai étudié. J'ai commencé par une première école, puis une deuxième. Et puis, en fait, là, vous voyez, le week-end dernier, j'étais encore en formation. Donc, c'est tout le temps, c'est toute la vie. Hein. L'étude du vivant, ça n'a pas de fin. C'est pas de début, pas de fin.
C'est ça. Et quelles sont les techniques ou pratiques les plus courantes que vous utilisez au quotidien ?
Au quotidien, j'utilise l'acupuncture. Mais j'aime aussi beaucoup utiliser les plantes. La pharmacopée chinoise ou occidentale, parce que j'aime bien utiliser les plantes plutôt chez nous, on va dire. Mais quelquefois, il faut avoir recours à la pharmacopée chinoise, qui est très, très puissante. Et puis, j'aime aussi utiliser les élixirs. J'ai un outil un peu particulier de connaissance aussi de la personne qui vient me voir, qui s'appelle le Bazi. On pourrait dire que c'est l'astrologie chinoise qui permet de... grâce à la date de naissance de la personne qui vient pour la première fois, établir une carte d'identité énergétique. Ça me permet d'avoir tout de suite un peu, comment dirais-je, une représentation imagée en couleur presque de l'énergie de la personne avec ses potentiels de force et de fragilité. Et l'idée de cette médecine étant une médecine préventive avant tout, c'est vraiment de renforcer justement et de rééquilibrer ses forces et ses faiblesses.
Les défenses naturelles.
Exactement. Ouais.
Quel est votre type de clientèle ? Plutôt des femmes, des hommes ?
Alors, on a encore une majorité de femmes, mais honnêtement, ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Honnêtement, sur une journée, je peux avoir un à deux personnes hommes qui viennent me voir. Donc, bien sûr, on est encore sur un équilibre, sur une majorité de femmes qui viennent se prendre en charge leur santé par ces méthodes-là. Mais ça s'équilibre honnêtement. Et puis avec des hommes qui ont une belle recherche, une belle envie de recherche d'être mieux, quoi. Donc, c'est vraiment encourageant, je trouve. Très chouette.
Anthony, vous connaissez la médecine traditionnelle chinoise ?
J'en ai entendu parler, je ne suis pas un pratiquant, mais j'écoute avec attention.
Merci. Alors, Maya, quels sont est-ce que cette médecine, elle peut compléter la médecine occidentale ? Et quels sont les mots MAUX qui sont les plus référencés ?
Oui, bien sûr que c'est un formidable complément. Ce matin, avant de venir, j'y réfléchissais justement. Je me disais, vous savez, dans l'histoire, je pense que toutes les médecines ont eu leur temps. Aujourd'hui, on est dans un temps de la science, c'est sûr. Et du coup, les médecines traditionnelles sont un peu plus en recul. Et pour autant, elles viennent quand même un peu en résistance titiller cette médecine moderne qui nous accompagne au quotidien. Elle est extrêmement complémentaire. Et ce que je constate et ce que je trouve formidable, encourageant et formidable, c'est que de plus en plus, moi, il m'arrive de recevoir des patients à qui leur médecin leur a parlé de la médecine traditionnelle, des oncologues qui proposent à leurs patients en chimiothérapie de faire de la médecine traditionnelle, entre autres chinoise, mais d'autres médecines, d'autres thérapies pour apaiser les effets de la chimiothérapie. Il s'agit pas d'être au même niveau, hein. Ça. Hein. C'est vraiment
en complément,
mais aussi là récemment un rhumatologue, une petite jeune fille atteinte d'une arthrite juvénile, dont le rhumatologue a dit à la maman, écoutez, voilà, nous aujourd'hui, voilà ce qu'on peut faire.
Ce serait
peut-être intéressant. Mmh. Impuissant, je vais pas dire ça, mais ce serait intéressant d'accompagner avec une autre méthode. Donc c'est en train de s'accompagner. Mais bien sûr, comme toutes les forces, on va dire, quand il y a des oppositions, il y a de la confrontation, hein, il y a un peu de résistance. Mais moi, ce que je vois et ce que j'apprécie, c'est ce côté complémentaire et puis collaboration. Donc ça, c'est chouette, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Alors donc vous, en tant que vice-présidente de Santé Essentielle, vous nous l'avez dit en préambule, il y a un festival à Maubuisson, donc je rappelle que c'est ce dimanche 22 juin à l'abbaye de Maubuisson de 9h30 à 19h. Ce sont les thérapeutes, toutes les personnes qui dispensent des disciplines qui viennent à vous, c'est vous qui allez les chercher pour ce festival ?
Alors comment ça s'est passé, c'est une bonne question. Les deux,
mon capitaine.
Les deux, exactement. Disons qu'il y a un noyau dur qui s'est constitué au fil des années. Et puis, moi, il m'arrive au cours des séances, et je pense que c'est l'exemple de Catherine d'ailleurs, mais d'autres personnes que j'ai rencontrées récemment. Je vois bien dans l'échange, pendant la consultation, si je sens qu'il y a une ouverture à ça, je vais pas hésiter à proposer. Tiens, on organise un festival, voilà ce qui va se passer. Est-ce que ça vous dit d'y participer? Là, encore récemment, moi, Catherine, ça fait longtemps que je la connais, mais j'ai une personne là que j'ai rencontrée récemment, je lui ai demandé si elle était intéressée, elle m'a dit allez, on y va, et du coup, et c'est ça qui est formidable, et cette année vraiment le changement je trouve par rapport au salon, là l'idée du festival c'est vraiment de mettre quelque chose de dynamique, vraiment de mouvement et d'expérientiel, mais ce qui se passe aussi, et ça c'est vraiment l'œuvre des personnes qui constituent l'association, ça c'est vraiment quelque chose auquel j'avais pas pensé, c'est que les personnes, les praticiens, les thérapeutes se sont rencontrés entre eux dans des disciplines différentes et se sont dit ah tiens, et si on faisait les choses ensemble.
Je trouve ça
génial.
Du pain béni.
Ça m'enchante.
C'est ça. Les activités que l'on peut trouver, c'est le yoga, la méditation, des ateliers sur la nutrition. Oui. Et puis peut-être d'autres pratiques qui favorisent un mode de vie sain.
Énormément de
le
choses.
Le but, c'est ça.
Oui, oui, voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est déjà de prendre conscience qu'on est vivant, ce qui est déjà pas mal.
Oui, oui.
Que si on s'étudie un tout petit peu, on est juste une machine extraordinaire, mais complètement magique, mais vraiment dans le sens littéral du mot. Qu'on est vraiment à l'image, c'est vrai qu'on peut, pour certains, hein, c'est peut-être moi, hein, je suis un peu un peu fleur bleue, mais si on s'émerveille sur la beauté d'une fleur qui est en train d'éclore, ben, il faut se dire qu'à l'intérieur de nous, c'est la même chose, quoi. Hein. La structure de l'ADN, c'est une fleur, c'est quelque chose qui s'ouvre, qui est en mouvement, dynamique. Enfin, on est cette beauté-là de la vie, de la nature. Donc, moi, je sais que ce qui m'intéresse dans les consultations que je fais, c'est ça, en fait. Hein, c'est bien sûr aider, mais honnêtement, c'est pas tant ça qui m'intéresse que de transmettre cette beauté de ce que nous sommes et du vivant, quoi, et de la vie qui nous entoure. Donc voilà, l'idée, c'est d'expérimenter ça au cours de cette journée dans un lieu qui est juste sublime, hein, qui est empreinte sacrée, et avec plein de techniques différentes. Chacun choisira ce qui l'attire le plus, le son, le massage, le toucher. Il y a des jeunes filles qui vont faire des expériences autour des herbes aromatiques et médicinales. Donc ça peut être l'odorat, ça peut être le goût. Enfin, d'expérimenter tous ces sens-là pour sentir que ça bouge à l'intérieur avec sa vie, quoi. C'est l'idée.
Ça va représenter combien d'exposants, ce salon, ce festival, pardon?
Une quarantaine, hein, 38-40 exposants et tout autant d'activités dans la journée, un peu partout, devant l'abbaye, à l'intérieur. À l'intérieur de l'abbaye, dans la salle du chapitre, la salle d'entrée, il y a les conférences. Toute la journée, il y a des conférences qui vont s'enchaîner. Et puis ensuite, il y a différents lieux devant l'abbaye. Et puis dans le parc, hein, Catherine par exemple va proposer deux ateliers, un atelier de marche afghane en mouvement dynamique dans le parc, et puis un atelier de sylvothérapie, elle va en parler, voilà, donc il va y avoir des tas de choses comme ça toute la journée.
Un festival forcément intergénérationnel.
Exactement.
Oui.
Autant
j'aimerais. Pour le public que pour les exposants.
Oui, les exposants, je dirais qu'on a un peu, on est peut-être un peu toutes dans la même tranche d'âge, grosso modo. Dans le public, j'aimerais, bien sûr, c'est peut-être la difficulté d'ailleurs d'attirer à la fois des jeunes. Je sais qu'il y a une personne qui va faire un atelier famille et qui peut s'adapter à des jeunes enfants. Mais bien sûr que ça peut être adapté à toutes les personnes, toutes tranches d'âge, toutes les personnes et toutes les envies de découverte de quelque chose de nouveau, quoi, pour s'accompagner.
Oui, je comprends. Je m'adresse à nouveau à vous, Anthony. Vous seriez attiré par ce festival dimanche à l'abbaye de Maubuisson?
Par curiosité, déjà l'endroit est merveilleux.
Oui, c'est vrai.
Il est départemental, je le rappelle.
Absolument.
Et donc, pour ces raisons-là aussi, je m'y rendrai bien.
Donc, c'est de 9h30 à 19h, hein. Oui, je l'ai dit, c'est ça. Merci Maya pour cette belle présentation. C'est vrai que le bien-être est souvent lié aussi à un environnement sain et propre, et il est beaucoup question de d'économie durable, de respect de l'environnement. Est-ce que c'est une prérogative dans votre tenue de ce festival?
Oui, bien sûr. On a d'ailleurs là, il y a deux jeunes femmes traiteurs qui vont participer au festival qui s'appelle les Mandolines et qui ont à cœur de préparer des produits et offrir au cours de la journée pour s'alimenter des produits bien sûr locaux, recyclables, avec des enveloppes recyclables. Donc ça, c'était chouette. Ensuite, il y a les herboristes qui vont aussi parler de ça, et puis la nutritionniste qui va parler de l'assiette santé avec cette notion de manger de saison, local au maximum, biologique quand c'est possible. Oui, bien sûr, évidemment. Puis de toute façon, on est dans des médecines où a priori on utilise nous-mêmes,
oui,
quoi.
Que la nature, oui.
Exactement.
En lien direct avec la nature.
C'est aussi pour ça que le lieu est porteur, parce que voilà, ça vient aussi, conformer aussi ce message-là, quoi.
Par rapport à votre pratique, une séance dure combien de temps à peu près?
Alors moi, j'aime bien prendre mon temps. Hein. C'est un peu le problème. Mes séances durent 1h30. J'aime bien échanger, discuter. Quand la personne le souhaite, si elle le souhaite pas, bien sûr, je respecte ça. Mais moi, mes consultations, elles sont un peu longues. Une heure et demie.
D'accord. Ouais. Et quand on vient vous voir, c'est sur combien de séances, une moyenne?
C'est très difficile à dire. Tout dépend de la personne, si elle a envie d'un accompagnement, si elle a envie d'intégrer cette médecine dans son hygiène de vie. Je rappelle que c'est quand même une médecine préventive à la base, mm-hmm. et que très souvent, on dit que on propose une séance par saison, ne serait-ce que pour dire... Bon, il y a cette notion de s'acclimater à chaque saison, parce que effectivement, les températures sont pas les mêmes. Du coup, le corps s'adapte pas de la même façon aux différentes températures selon si c'est en été, selon si c'est en hiver.
Le métabolisme peut être
exactement.
Perturbé.
Donc, c'est de faire un petit rappel sur le corps pour dire, bah voilà, on change de saison, donc on change de climat. Mais c'est aussi dire, voilà, quatre fois par an, c'est peut-être le minimum aussi pour
d'accord,
prendre soin de soi,
d'accord.
quoi.
Ouais, très bien. Et une dernière question, quel est le prix d'une séance chez vous?
Avec moi, 75 euros.
Très bien.
Voilà, 75 euros, une heure et demie. Et il y a le bilan énergétique, ce que j'appelle le BADZE. Donc vraiment cette explication que j'aime bien partager de la carte énergétique. Et puis ensuite, la séance.
Très bien. Merci beaucoup, Maya, pour avec cet plaisir. Échange enrichissant. Puis nous avoir fait découvrir comment ces pratiques ancestrales et naturelles peuvent grandement contribuer à notre bien-être. Merci. Un peu de musique avec Christophe Maé.
Du fond de ma rue, une silhouette comme un bruit aigu se rapproche à hauteur de mes yeux nus. La silhouette, c'est une fille, jour de fête nationale, ronflante comme une escadrille qui domine mon moral. Je la regarde me sourire, je baisse la garde et les yeux pour me dire, belle demoiselle qui se presse dans l'allée. Sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Du milieu de ma rue, la silhouette comme un nuage s'éloigne sans un bruit, alors c'est grave.
Non.
Ça se bouscule dans ma tête, bébé a l'effet de plaire. C'est pas vraiment la fête, pourtant j'ai l'air de lui plaire. Qu'ai-je fait, oh bon Dieu, pour être fidèle à cet aveu? La belle demoiselle presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Inaccessible comme une hirondelle. Le fantasme qui peut distraire. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait. Merci mon Dieu, mais je tire un trait sur cet aveu. La belle demoiselle disparaît dans l'allée. Sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole.
Elle s'envole.
Belle demoiselle,
oh non,
qui se presse dans l'allée. Sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer.
J'ose pas m'emballer.
Jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole.
Elle s'envole.
La belle demoiselle, qui se presse dans l'allée. Sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer.
IDFM 98FM.
C'est IDFM Radio, merci d'être à notre écoute en FM sur 98.00, DAB+, Web Radio et sur notre appli. Ce matin, bien-être et mobilité sont les thèmes de notre émission. Retrouvons Maya Parent, praticienne en médecine traditionnelle chinoise à la maison de l'embellie de Maison de l'Embellie, pardon, vice-présidente de l'asso Santé Essentielle, Catherine Bariol, qui propose un atelier de marche afghane et de la sylvothérapie, et Anthony Arciero, conseiller départemental délégué aux routes et au Grand Paris. Alors, Catherine Bariol, même punition que Maya, je vous laisse nous dire qui vous êtes.
Eh bien, moi, je suis arrivée au côté nature, en fait, que je vais conserver par une formation que j'ai effectuée en 2018 de relaxation évolutive et sophrologie. Donc, d'accord, je n'ai pas poursuivi en sophrologie. Et en fait, c'est une formation que j'ai effectuée, chez un organisme qui est dans leur département. Donc, je vais faire un petit cocorico quand même départemental.
Ouais, allons-y.
Qui s'appelle ISM. Où c'est un couple de thérapeutes qui tient cet organisme de formation qui est multiple. Donc je vous invite à aller sur leur site, il y a énormément de formations diverses et variées. Ils se modernisent maintenant avec la sonothérapie, des choses qui deviennent tendance et avec de super effets. Donc voilà, donc je suis certifiée de cette pratique. Et pourquoi j'avais choisi cette pratique ? Parce que l'éventail était large, c'est-à-dire que la boîte à outils qu'on nous a proposée allait dans beaucoup de directions. On a rencontré beaucoup de formateurs lors de cette formation qui a duré 2 ans, un week-end par mois pendant 2 ans, avec un mémoire ou pas, bon voilà. Et la boîte à outils était vraiment, pour moi, exceptionnelle, donc avec des choses dans le mouvement, des choses dans l'immobilité, des ateliers découvertes ou finalement comme la kinésiologie où après si on voulait se spécialiser on se spécialisait ou là on rentre dans des thérapies un petit peu plus connues on va dire. Donc voilà, ça c'est ce qui m'a convenu. Malheureusement pour des raisons personnelles je n'ai pas mis en exergue cette formation rapidement, voilà. Et l'appel de la nature s'est intensifié avec les
fort.
Années. Voilà, peut-être merci Covid, je ne sais pas. Et en fait, ça m'a amené vers la marche afghane qu'on avait expérimenté quand même pendant cette formation, que je trouvais très très dynamisante pour moi et relaxante à la fois. Et ensuite, la sylvothérapie qui est la partie occidentale du Shinrin-yoku japonais. Puisque cette technique est à l'origine, vient du Japon.
On voyage beaucoup ce matin.
Voilà.
Donc expliquez-nous cette marche afghane. Pourquoi
la
marche afghane ?
La marche afghane, comme son nom l'indique, vient des caravaniers afghans, notamment une tribu qui s'appelait les Maldars, je crois, où au 19e et 20e siècle, deux personnes ont observé et ont fait des travaux là-dessus. Donc à l'origine, c'était Edward Stigler qui les a accompagnés dans les années 80. Et lui-même s'est inspiré de travaux du docteur Danish, qui était d'une période antérieure, j'ai oublié les dates, sur un travail donc de rythmer une marche avec une forme de respiration. Donc ça induisait une endurance donc des caravaniers afghans. Et cette technique a été donc affinée par ce docteur Stigler. Et maintenant, on rencontre... Alors, je vais dire quand même où est-ce qu'on la rencontre, parce que les sportifs se l'approprient aussi avec d'autres rythmes. Moi, je l'ai expérimenté dans le cadre de ma formation de relaxation, où finalement, ça induit une pratique méditative également. C'est-à-dire qu'on peut l'adapter quand même à plusieurs niveaux. Donc, je trouve ça très intéressant. Moi, le côté méditatif et respiratoire, c'est ce que je privilégie, à savoir qu'on calque nos pas sur un rythme respiratoire. Donc des rythmes respiratoires variés, selon déjà l'intensité qu'on y met, notre capacité respiratoire qui, au fur et à mesure, s'améliore quand même, et le relief, très important. On marche pas, on respire pas à plat comme en montée. Et ça peut induire donc en finalité une pratique méditative par la répétition, par l'inclusion un petit peu de ce qu'on fait, et aussi l'inclusion d'un mantra, donc phrase positive. Donc il y a aussi cet effet dynamisant et relaxant, mais dans un but thérapeutique quand même un petit peu plus prononcé quand on induit de la positivité dans tout ça. Et je vais dire que le minimum, on peut faire ça si vous avez 10 minutes pour aller à votre station de train. Mais en gros, 3 kilomètres,
c'est mieux.
C'est assez optimal.
C'est bien.
Alors, je ne l'ai pas expérimenté en randonnée style Compostelle ou autre, mais je pense que ça peut être assez chouette. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour et que j'ai été assez claire sur cette pratique.
Alors, moi j'ai une question à poser, mais Anthony a une question à poser. Je voulais, ma question c'est, mais donc ce sont des marches plutôt solitaires, ce n'est pas en groupe.
Alors solitaire, pas forcément, mais silencieuse. Donc oui. Effectivement solitaire dans le concept.
Mais parce que tout le monde n'a pas la même respiration.
Non, mais comme dans
je
moi,
dire, tout le monde n'a pas le même rythme. Hein.
C'est vrai, marcher. Mais dans le programme que je propose, je reproduis ce que j'avais appris, c'est-à-dire que je passe par un échauffement où en fait on va augmenter les temps respiratoires crescendo et décrescendo. D'accord. Et là vous sentez que déjà,
waouh, ouais,
wow, ouais. ça y va. Et après, selon le temps qu'on a, si on inclut une dynamique un petit peu plus sportive, on va accélérer le mouvement, mais. Mais oui, c'est solitaire à la base, mais on peut le pratiquer à petits groupes, voilà.
Anthony, vous souhaitiez poser une question à Catherine.
Qui va piano, va sano et lontano. Combien de kilomètres vous faites?
Alors le but, j'ai mon petit circuit un petit peu en forêt de Montmorency. Pour le coup, à l'abbaye de Maubisson, j'ai trouvé un autre petit circuit qui est un peu plus court parce que le temps est imparti et les lieux sont pas non plus extensibles. Mais une heure et demie, en général, ça dure ça. Donc sur le circuit de Montmorency, par exemple, j'ai dû 6-7 kilomètres.
D'accord. Ah oui. Voilà. Et vous avez beaucoup d'adeptes?
Alors, je débute. Ouais. Mon activité pour la proposer, et je la propose à des amis, à des connaissances,
ça, oui.
Voilà.
Vous l'expérimentez.
Je suis un petit peu en ascension, dans la période ascensionnelle. Pour ça que je suis là, et merci Maya de m'avoir conviée à cette émission. Voilà.
Anthony, je vous en prie.
Non, c'est intéressant. Les techniques de respiration sont importantes. On les sous-estime. Je crois que ces caravaniers afghans pouvaient marcher jusqu'à 60 km par jour. Ça en dit long sur cette technique.
Oui. Ouais. Et je voulais rajouter quelque chose quand même pour les sportifs, parce que comme ça induit une pratique méditative, si on va jusqu'au bout et dans ce sens-là, les sportifs n'aiment pas toujours méditer assis et en immobilité. Donc c'est une manière de méditer en mouvement.
D'accord.
Voilà, je rajoute cette petite précision.
Ça me semble insurmontable de méditer en mouvement.
Non, justement,
moi j'ai déjà du mal à méditer.
Grâce à cette phrase positive, justement, qui est très dynamisante et qui correspond à notre humeur sur un travail personnel que vous faites, sur un encouragement peut-être pour une réunion, dans différents domaines de notre vie, on peut induire ça et pendant tout ce temps, vous êtes axé sur cette phrase.
La marche en elle-même, c'est déjà un moment comme ça on se recentre sur soi-même.
Oui et non, parce que le petit mental qui est très coquin, en fait, une fois que vous êtes dans un automatisme de pratique, et ben votre cerveau, il a quand même la place pour aller vous faire
pour envoyer
des
pensées polluantes, c'est ça.
Oui, et la phrase méditative évite ça.
Donc cette phrase, vous la répétez
avec le temps des pas, par exemple, sur la marche proprement dit, où on va avoir 5 temps d'inspiration et 7 temps d'expiration, vous induisez une phrase soit complète sur les 12 temps.
Vous avez un exemple de phrase à nous donner?
Je profite de la vie, j'ai confiance en moi.
La vie est belle.
Sans négation, bien sûr.
D'accord.
En mode positif et injonction. Et là, quand vous êtes sur une phrase ou deux phrases, on inspire, expire au choix, votre mental, il reste là.
Mais
donc,
écoutez,
on ne pense plus à ses courses, à ses soucis.
Ça donne
etc.
envie d'expérimenter. Ouais. Anthony, je pense que vous faites de la course, vous, non?
Je suis marathonien.
Vous avez physique.
Et les techniques de respiration me sont très utiles. Parce que tenir 42 kilomètres, c'est, surtout sur les derniers kilomètres, c'est assez difficile. Et il faut s'y préparer. Et ces techniques-là sont précieuses.
Donc vous-même, vous avez des techniques de respiration forcément
oui,
pour tenir le plus longtemps possible.
Absolument. Sinon, on tient pas le rythme. La respiration sont les clés pour des plus ou moins longues distances.
Oui.
Même quand on fait 10 km, c'est très important d'avoir une bonne respiration.
Important.
Ça permet d'aller plus vite aussi. Tout est lié.
Merci Anthony pour ce témoignage. Maya, il me semblait que vous vouliez poser une question. Non, j'ai eu l'impression que vous vouliez intervenir. Mais
je bois les paroles de Catherine. J'aime beaucoup sa façon de parler et de parler de ce qu'elle aime faire.
Merci.
Alors Catherine, vous pratiquez aussi la sylvothérapie.
Ça aussi c'est une activité en devenir,
oui.
Qui me trottait dans la tête depuis un moment, mais je mettais en pratique pour moi-même et j'ai déjà
donc,
fait quelques petits sylve stages.
Sylve de forêt, c'est ça?
Sylve forêt, exactement. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, on va dire pour faire simple, la version occidentalisée du Shinrin-yoku japonais. Le Shinrin-yoku japonais, comme le Japon le fait si bien, obéit à des codes bien particuliers. Et chez eux, c'est une thérapie médicale prouvée, avérée, mesurée, de guérison cardiaque et autres. Donc en fait, il y a un livre qui s'appelle Shinrin-yoku, j'ai oublié l'auteur, qui était un médecin, qui a prouvé dans les années 80, je crois, là je veux pas dire de bêtises, toute ces vertus thérapeutiques. Alors il faut savoir qu'au Japon, il y a encore quelques forêts primaires, plus beaucoup, où l'esprit de la forêt est très très particulier au Japon, hein, c'est pas forcément comme chez nous, d'où toute cette pratique qui a été mise en œuvre, et vraiment, j'insiste, mesurer le truc, et c'est prescrit en cure, en thérapie, par un médecin.
D'accord.
C'est assez hallucinant. Et quand vous lisez le livre...
Dans des cas de quoi? De dépression?
Dépression cardiovasculaire, bien sûr. Ah oui. Tous ces maux-là.
Oui, oui. Dont on souffre, dont la société moderne souffre.
Voilà, mais on peut se guérir quand même. Il faut savoir, je reviens un petit peu sur ce que Maya disait vite fait, sur ce principe de régénération corporelle.
Oui, oui, oui.
Pas totalement, parce que quand c'est très très abîmé, quand même, ça devient de plus en plus difficile. Et je parle pas de l'aide des médecins ou autres, mais dans son pouvoir de régénération, c'est pas quelque chose qui nous est enseigné en Occident. Et j'avoue que ce serait important d'apprendre et de tenir compte de ça. Voilà.
Alors, je me suis posé la question, est-ce que ces deux pratiques s'associent ou sont totalement indépendantes l'une de l'autre?
Elles sont indépendantes dans le concept, mais au vu thérapeutique, on peut très bien les coupler. Là, lors du festival, je vais proposer ça sur deux horaires différents, bien sûr, parce que des petites choses comme ça séparées, c'est pareil, hein, c'est une boîte à bonbons, hein, ce festival. Mmh. On aura que l'embarras du choix pour aller choisir ce qu'on a envie de faire. Mais effectivement, vous êtes au sein de la nature et de la forêt, donc on peut très bien effectivement les intégrer, ou des stages, ou des journées, et puis voilà. Donc la sylvothérapie, ce sont différents petits exercices pour amener une relaxation que le verre nous apporte. Donc il y a des exercices sensoriels, donc c'est ça qui me passionne, en fait, sur les cinq sens.
Oui. C'est le but de ce festival, hein, c'est axé sur les cinq sens. Et donc vous dites que vous en êtes aux prémices, hein, de cette pratique, mais donc vous n'avez pas d'exemple de personne dont la vie aurait été transformée par la marche afghane ou la sylvothérapie.
Hélas, non, mais moi un peu, pour le coup.
Oui, vous êtes un bon exemple alors.
Oui, et antidouleur aussi, la marche afghane, par le fait de s'oxygéner et le verre, hein, ce qu'on lit dans tous les magazines et autres livres quand même très sérieux sur les vertus de la verdure et du silence, mais du silence de la nature, qui
c'est
n'est
bien.
Pas silencieuse, pas le silence.
Voilà. Oui, oui, oui. Merci Catherine de nous avoir fait découvrir la marche afghane et la sylvothérapie. Puis merci à toutes les deux, hein, pour
merci à vous.
Nous
merci.
Avoir présenté, puis surtout nous avoir sensibilisé sur le fait de prendre soin de soi, c'est qui est essentiel.
Et si vous êtes valdoisien et que vous avez envie de découvrir votre territoire, vous pouvez vous rendre sur le site du département. Vous avez la brochure Sortie Nature,
oui.
Et vous y trouverez des pépites, beaucoup de sorties tout au long de l'année, avec aussi des marches afghanes qui seront proposées, je crois, ce week-end, si je ne me trompe pas aussi. Vous allez découvrir toutes nos forêts départementales, des marches lentes. On a beaucoup parlé de Japon et de Chine. Vous savez qu'on a un partenariat privilégié depuis de nombreuses années au conseil départemental.
Ouais.
Et donc, ces styles de promenade, marche lente, découverte des arbres, ouais. Vous les trouverez dans ce fascicule que vous pouvez aussi trouver dans les accueils des mairies valdoisiennes.
Mais il est aussi chez IDFM Radio. Plus. Je vous en donnerai un à la fin de l'émission. Et moi, je l'ai feuilleté et c'est incroyable toute la richesse de ce qui est proposé. Franchement, je vous invite à le feuilleter. Hein. Oui, il y a énormément de choses.
Alors, je confirme. Catherine. Je disais tout à l'heure en off que l'année dernière, j'en ai expérimenté une bonne dizaine.
Ah oui, très bien.
Et ouais. Je confirme et j'encourage également. J'appuie.
Ce document.
Ouais, tout à fait.
Merci en tout cas à tous les trois pour ces témoignages croisés. Nouvelle pause avant d'aborder le thème consacré à la mobilité dans le Val d'Oise, un vaste sujet aussi. À tout de suite.
D'abord, j'ai perdu ma langue et puis j'ai perdu mes clés. Ensuite, j'ai perdu le nord, la tête, un soir d'été. J'ai perdu mon adresse et puis j'ai perdu mon âme. J'ai perdu mon chemin. J'ai perdu d'avance, j'ai perdu la guerre. J'ai perdu le sens de l'humour, des affaires. Et puis j'ai perdu la mémoire, j'ai perdu le sourire. Le jour où j'ai perdu mon père, j'ai perdu à la loterie. Oh, viens me retrouver. Reviens mon amour. Pour 10 de retrouver. Je n'ai que l'amour. Oh, viens me retrouver. Reviens mon amour. Pour 10 te retrouver. Je n'ai qu'un amour. Alors j'ai perdu ma jeunesse et puis j'ai perdu confiance. J'ai perdu au poker, j'ai perdu la conscience. J'ai perdu la beauté, le goût, le toucher. J'ai perdu mes papiers, j'ai perdu mon identité. J'ai perdu la raison, j'ai perdu ma maison. J'ai perdu à tort ou à raison, j'ai perdu mon enfance. Et puis je t'ai perdu, j'ai perdu mon aimé. Il me reste la vie, j'ai perdu à la loterie.
Oh, viens me retrouver. Reviens mon amour, pour 10 te retrouver, je n'ai qu'un amour. Oh, viens me retrouver, reviens mon amour, pour 10 te retrouver, je n'ai qu'un amour.
D'abord j'ai perdu ma langue et puis j'ai perdu mes clés. Ensuite j'ai perdu le nord, la tête, un soir d'été. J'ai perdu mon adresse et puis j'ai perdu mon âme. J'ai perdu mon chemin. J'ai perdu d'avance, j'ai perdu la guerre. J'ai perdu le sens de l'humour, des affaires. Et puis j'ai perdu la mémoire, j'ai perdu le sourire. Le jour où j'ai perdu mon père.
Oh, viens me retrouver. Reviens mon amour. Pour 10 de retrouver. Je n'ai qu'un amour. Oh, viens me retrouver. Reviens mon amour. Pour 10 de retrouver. Je n'ai qu'un amour.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin, vendredi 20 juin, au sommaire, pratiques ancestrales et naturelles favorisant un mode de vie sain et engagement du conseil départemental pour améliorer notre quotidien. En compagnie de Maya Parent, praticienne en médecine traditionnelle chinoise à la maison de l'embellie, vice-présidente de l'association Santé Essentielle, Catherine Bariol qui propose un atelier de marche afghane et de sylvothérapie, Anthony Arciero, conseiller départemental délégué aux routes et au Grand Paris. Alors Anthony, quelques mots pour nous dire qui vous êtes. Hein,
exactement. Eh bien, je suis conseiller départemental du Val d'Oise. Je suis élu sur le canton de Goussainville depuis 2015 et dans une petite commune aussi où je suis élu municipal à Survilliers, tout au nord-est du département dans le Pays de France.
Et dans la vie civile, si je puis dire,
qui alors, je suis que consultant dans le privé.
D'accord, très bien. Alors, j'ai trouvé qu'avant de vous questionner sur le votre domaine qui est les mobilités, il m'a semblé important de nous rappeler quelle était la mission du conseil départemental.
Absolument, le conseil départemental, anciennement conseil général, les départements, vous le savez, ont été créés il y a plus de 200 ans sous la Révolution, et puis au fur et à mesure des années des républiques, cette institution a évolué. Le conseil général, c'est un peu le conseil municipal en plus grand, qui est devenu depuis 2015 conseil départemental pour davantage de lisibilité. Et ceux qui forment les conseils départementaux dans les 101 départements français, ce sont des élus qui sont élus par les habitants tous les 6 ans dans les 21 cantons du Val d'Oise. Dans ces 21 cantons, vous avez une femme et un homme. Comme ça, vous avez la parité au sein de ce conseil départemental. Et vous gérez les affaires du département, qui sont nombreuses et qui touchent à la vie quotidienne des Français. En fait, je le dis souvent, le département va du plus petit au plus âgé. Dès la naissance, le département est présent avec la protection maternelle et infantile dans les ce qu'on appelle les PMI. Nous accompagnons ensuite les enfants dans leur parcours scolaire à travers le collège, puisque c'est le département aussi qui crée et construit les collèges, qui les entretient. Les professeurs sont, eux, affectés par l'État, mais c'est nous qui entretenons les nombreux collèges. Et c'est un sujet en ce moment, puisque la démographie valdoisienne est assez jeune, le département le plus jeune de France, et nous construisons chaque année un collège, ce qui est tout à fait inédit en France, je crois. Et puis on poursuit tout au long de la vie pour la solidarité, notamment à travers le RSA, quand on a un accident de vie, j'allais dire, eh bien le département finance à la fois le RSA, mais contribue aussi à l'insertion professionnelle, encourage ces personnes-là à retrouver un emploi, lutte aussi contre la fraude, il faut le dire, plus de 3,5 millions d'euros, c'est pas rien, ont été récupérés l'an dernier parce qu'on a mis les moyens en place, parce qu'on ne veut pas que cette ressource qui est utile aux Français soit
dévoyée.
Et donc nous y mettons en Val-d'Oise les moyens nécessaires. Le handicap aussi, là aussi, accident de la vie, mais pour le coup sur le physique, sur la santé des personnes, on accompagne avec la maison départementale du handicap les Valdoisiens qui sont en mobilité réduite. Et puis, je fais le lien avec les mobilités, pour le coup, c'est aussi les routes départementales. On a tous pris la route départementale, plus ou moins, pour venir ce matin à IDFM Radio. Chaque jour, les Valdoisiens empruntent ces routes, 1100 km de route, qui permettent de circuler et de mailler le territoire valdoisien. C'est aussi beaucoup de choses, les personnes âgées avec les EHPAD, et puis c'est l'eau que l'on boit, c'est 80 captages dans tout le Val d'Oise qui nous permettent de boire, de se laver, et ces eaux sont aussi contrôlées par le département. L'environnement, évidemment, nous protégeons notre beau département. Je crois que c'est plus de 50% encore de nos espaces qui sont soit agricoles, soit forestiers. Et nous protégeons à travers une politique assez ambitieuse d'espaces naturels sensibles. C'est des sites remarquables ou non, pour protéger un peu la faune, la flore, la biodiversité de ce département francilien. Voilà quelques politiques départementales. Je suis sûr que j'en oublie parce qu'elles sont nombreuses, et au bout de 10 ans de mandat, j'en apprends aussi tous les jours.
Alors, merci hein, Anthony d'avoir fait ce résumé sur la mission du conseil départemental. Donc, votre domaine, ce sont les mobilités, un sujet central hein, dans les stratégies de développement urbain, un pilier fondamental du développement urbain et régional. Vous l'avez dit, elle nécessite une approche intégrée qui tient compte des aspects économiques, sociaux, environnementaux, technologiques, pour créer des systèmes de transport qui répondent aux besoins actuels et futurs des citoyens. Cette année, c'est l'année d'un bilan, d'un mi-mandat. Il y avait une conférence de presse hein, jeudi dernier. Pouvez-vous nous rappeler les projets les plus significatifs réalisés au cours de ce mandat et quels ont été leur impact concret sur les habitants du Val d'Oise en termes de mobilité, bien sûr.
Je vais en citer trois significatifs, peut-être d'est ou d'ouest en est. La bretelle de Sannois, vous savez, sur la 15. C'est une autoroute assez fréquentée par les Valdoisiens et vous avez un nouvel accès qui permet à Sannois de sortir plus facilement sur cette autoroute A15. Ça, c'est le département qui l'a fait. En fait, on a relié une route départementale vers l'autoroute A15. Le PN4, vous voyez actuellement les travaux en cours par la SNCF puis ensuite par le département à travers ces routes départementales pour enfin mettre un terme à ce passage à niveau le plus dangereux de France. Mmh. C'est à Deuil-la-Barre. Mmh. Et sur cette ligne SNCF, vous n'aurez plus ce passage à niveau. Les habitants pourront circuler dans Deuil avec les automobilistes aussi, oui, de manière beaucoup plus sécurisée. Je citerai aussi vous
savez. Avec juste une opération spectaculaire hein, le vendredi, le lendemain de l'ascension, avec la pose d'un pont pour permettre la circulation tout en faisant les travaux.
Ce sont des travaux absolument de génie civil qui sont très importants et impressionnants parfois. Vous avez aussi Goussainville. Goussainville, c'est la sixième commune du département. 32 000 habitants, vous n'aviez que deux accès depuis des décennies. La commune s'est agrandie sans que l'on pense à désenclaver cette ville du Val d'Oise. Là, nous avons créé deux accès supplémentaires. En fait, dans toutes ces réalisations, les gens gagnent du temps. C'est précieux le temps en Île-de-France quand les automobilistes ou les personnes en bus me disent « "Bah, Anthony, je gagne 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, 20 minutes dans une journée, c'est énorme. » On parlait de bien-être, de stress,
c'est ça,
de respiration,
de qualité de vie,
ouais. La qualité de vie. Et ben ça en fait partie. C'est très important. Sur les routes, nous avons beaucoup de projets sur les 183 maires que compte le département. Chacun a son projet pour sa commune de sécurité routière. Alors, ça peut être des petits aménagements, un plateau surélevé pour casser la vitesse, un giratoire, une bretelle d'accès pour permettre le développement économique d'une zone d'activité. Aujourd'hui, vous avez des travaux au niveau des Anvilles, vous savez, l'ancienne le Val des Anvilles, cette zone d'activité qui a besoin de renaître. Sans accès routier digne de ce nom, il ne pourrait pas y avoir d'activité économique qui prospère. Et donc, ça contribue aussi à l'attractivité du département, à sa qualité de vie et à son bien-être.
C'est ça. Oui, le but étant de rendre la vie quotidienne plus facile et moins stressante hein, pour
absolument
les habitants, désenclaver le territoire, vous l'avez dit. Et puis, vous l'avez dit, une meilleure mobilité réduit les temps de trajet, diminue la pollution, peut-être, et favorise un environnement urbain plus agréable et accessible.
L'enjeu aujourd'hui, c'est... parce que on dit que la route pollue. Non, c'est pas la route qui pollue. La route, elle est là pour relier les uns les autres, et c'est important, de manière sécurisée. Mais c'est ce qu'on y met dessus. Aujourd'hui, le développement du véhicule électrique, c'est un pari sur l'avenir, il faut le faire. On verra bien dans les années à venir ce qu'il en est. En tout cas, comme toute avancée technique, il faut attraper la balle au bon, si je puis dire. C'est pour ça qu'on a développé aujourd'hui plus de 408 bornes électriques réparties sur l'ensemble du département. Ce sont les petites bornes Volti, qui sont des bornes publiques. Et vous avez d'autres bornes électriques qui sont... à disposition évidemment des Valdoisiens, mais on fait ce pari-là aussi d'une route plus propre, décarbonée, aussi dans les matériaux que l'on met. On peut aller, on pousse vers des matériaux de plus en plus recyclés pour la réfection de nos couches de roulement. Et puis ça va aussi sur ça se voit physiquement à travers la construction de nombreuses pistes cyclables qu'on appelle des voies vertes. Ce sont ces pistes de 3 mètres où l'on peut circuler à la fois à pied et à vélo, où les moyens actifs peuvent se circuler ensemble, oui, de manière sécurisée. Et ça, sur le long de nos départementales, vous en voyez de plus en plus. On essaie de mailler le territoire avec un ambitieux plan vélo. Ça aussi, c'est la route de demain. Et puis, quand on peut faire des voies dédiées aux bus, eh bien, on les crée pour que ces bus-là puissent accéder aussi plus facilement à leur destination.
On va en parler. Je note aussi que, enfin, en préparant le dossier, j'ai vu que les zones piétonnes font partie de ce que vous réalisez. Je vois que ce qui rend les projets de mobilité durables, c'est les pistes cyclables, les transports en commun efficaces et les zones piétonnes. Donc voilà, j'ignorais que c'était une de vos missions. Ce qu'on peut retenir de ce bilan à mi-mandat, c'est que les promesses ont été tenues.
Les promesses ont été tenues au-delà de ces promesses. Vous savez, quand on fait un programme, on essaye d'être, en tout cas en ce qui concerne la majorité départementale, d'être le plus dans le réel possible. Nous avons des contraintes budgétaires, il ne faut pas les nier. Nous avons un budget départemental où les sources proviennent essentiellement de la TVA, des frais de notaire et des dotations de l'État. Et avec ça, nous avons une collectivité avec près de 4000 agents à faire tourner pour être au plus proche des citoyens. C'est les routes départementales, je vous l'ai dit, les collèges également. Ça va aussi sur les politiques de l'eau, de la petite enfance. C'est beaucoup
oui,
de choses.
C'est
près d'1,5 milliard d'euros de budget. Et c'est de l'investissement. Et c'est toute une politique de budgétaire à mener avec sérieux, parce que sinon on va dans le mur.
C'est ça. Anthony, je propose qu'on fasse une pause et avant d'aborder la concrétisation de la ligne 17 et puis le projet de la ligne 19. À tout de suite.
Oublie tes erreurs et tes peurs, je les efface à chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Oui, j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le trop cruel, je serai là toujours pour toi. Que tous tes amours soient sûrs et tes amis sincères. Pour toi, un domaine où la haine est la seule étrangère. Oui, je ferai un t'iras bien, tu ne seras jamais seul, tu ne manqueras de rien. Oui, j'ai découvert qui je suis.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
C'est l'économie en direct et aujourd'hui nous parlons de qualité de vie avec trois invités, Maya Parent, Catherine Bariol et Anthony Arciero. Anthony, vous venez nous donner les grandes lignes de ce bilan à mi-mandat de la mission du Conseil départemental. Il y a un projet, vous avez parlé de Goussainville, et donc Goussainville est une ville qui est en train un petit peu d'exploser, j'ai l'impression, économiquement, socialement. Et il y a cette ligne 17 du Grand Paris Express, cruciale pour relier le Val-d'Oise aux autres pôles d'activité.
Absolument. La ligne 17, c'est la ligne du Grand Paris Express. Vous savez, c'est ce projet gigantesque qu'a voulu le président Sarkozy dès 2008. Mmh. Et on en voit aujourd'hui les premiers résultats avec des gares qui s'ouvrent. La ligne 14 a été prolongée. Oui. Mmh. Vous avez la ligne 15, la ligne 16, la ligne 18 plus au sud de l'Île-de-France. Cette ligne 17, elle va venir relier le réseau du Grand Paris Express à Roissy en passant par Gonesse. Et nous, ce que nous souhaitons au département, c'est d'aller un peu plus loin avec une ligne 19. Elle n'est pas encore inscrite dans ce projet du Grand Paris Express, mais nous avons souhaité mettre sur la table une étude, ce qui veut dire des sous, du budget pour permettre demain, en tant que Val-d'Oisien, de dire voilà, nous avons un projet sérieux qui permettrait de relier la Défense à Roissy en 30 minutes à peu près. Ce qui serait révolutionnaire pour le département, qui rendrait ce département encore plus attractif, parce que on le sait, la circulation est un atout. Quand on circule bien dans un territoire, ce territoire prospère. Alors on a notre réseau routier, on a notre réseau de transport en commun, nos bus, nos RER qui sont reliés essentiellement à Paris directement, mais il faut une branche radial qui permettrait de relier le département d'Est en Ouest en passant par Argenteuil et en reliant peut-être aussi les axes que sont la ligne C et la ligne D pour arriver ensuite sur Roissy. Ça, c'est l'ambition que nous avons. C'est un projet de long terme. Alors les routes, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est parfois long, ça demande 2, 3, 4 ou plus d'années pour mener à bien un projet, parce qu'il faut un accord politique d'abord entre une mairie, un département. Ensuite, il faut trouver il faut résoudre le problème budgétaire. Mmh. Et une fois que tout ça est résolu, il faut mettre en place des études. Nos ingénieurs au département y travaillent le projet ensuite vient à son terme après une série de règlements pour des études de la faune et de la flore, des études environnementales, beaucoup de sujets. Il faut être patient.
Oui.
Et un tel projet,
patient et opiniâtre,
ça c'est le rôle que nous qu'on acquiert assez rapidement quand on est élu local. Et la ligne 17, la ligne 19, pardon, en fait partie. La ligne 17, elle est en construction. Oui. On voit aujourd'hui sur l'autoroute du Nord un nouveau viaduc qui est très beau, qui a été réalisé là il y a quelques semaines. La ligne 17, elle va arriver.
Oui.
2028.
Elle est poussée. La ligne 17, on peut dire qu'elle est un petit peu poussée par ce projet Agoralim aussi. Hein, ça s'est fait, non?
Alors, en fait,
oui, non.
Non, la ligne 17, elle va passer par Gonesse, qu'on appelle le triangle de Gonesse.
Oui.
Là, il va y avoir une cité scolaire, une nouvelle vie va économique essentiellement va naître sur ce territoire qui en a bien besoin et relier ensuite Roissy. Ça, c'était important. Mais la ligne 19, elle, l'idée, c'est qu'elle relie donc la Défense à Roissy.
Et donc, passage,
ça, il reste à définir.
Ah oui.
Et effectivement, alors je suis élu du canton de Goussainville, donc effectivement, moi, ce que j'aimerais, c'est que cette ligne 19 passe par Goussainville pour permettre à cette ville, vous l'avez dit, qui est en pleine expansion, pleine mutation, elle se métamorphose avec de nouvelles activités. C'est une ville importante du département dont on va parler dans les prochaines années. Et il serait sans doute intéressant que, avec le projet Agoralim, vous savez, c'est ce projet agroalimentaire qui permettrait, en fait, c'est un Rungis
de désenclaver aussi Rungis, hein.
Absolument, qui est aujourd'hui rempli à 98%. Il y a un besoin d'un nouveau Rungis au nord de l'Île-de-France pour irriguer cette grande région européenne. Et il serait peut-être intéressant d'avoir un passage de cette ligne 19 à Goussainville. Après, il faut que les études nous démontrent l'intérêt d'un tracé le plus efficient possible.
Alors, je voudrais poser la question à Maya et Catherine. Vous avez entendu parler de ces projets de ligne 17, ligne 19, Agoralim, ça vous parle ou...
Non, je suis désolée. Moi non plus, pas du tout.
C'est un petit peu ce qu'on regrette, hein, c'est ce qu'on disait avant l'émission, Anthony, que bon, nous ici chez IDFM, on en parle, je ne vais pas dire tous les jours, mais j'avais reçu Stéphane Layani avec Daniel Fargeau et puis Pierre Cuchely pour parler de cette mise en route d'Agoralim. Mais voilà, ce sont des projets qui vont intervenir dans l'est du département et qui sont grandioses, quoi. Enfin, vraiment, il faut.
En revanche, je suis extrêmement favorable à l'idée qu'on puisse parler de tout ça et de la valeur que représente le travail administratif pour entretenir les régions, les construire et développer l'avenir. Ça, je pense qu'il faudrait encore plus faire de communication là-dessus parce que tout a une valeur, quoi.
Complètement.
Les gens réalisent pas le coût d'un ticket de bus, le coût d'une voirie, le coût de tout ça. Et ça, je trouve que c'est fondamental de parler de ça, bien sûr.
Oui, plus de communication encore sur vos missions. Anthony, vous dites que c'est à long terme, une idée de calendrier d'échéance pour la ligne 19 ou pas du tout ?
La ligne 19, c'est 20-30 ans.
Oui.
C'est à ce niveau-là, parce que voilà, un projet comme ça, c'est 6 milliards d'euros. Autant le conseil départemental a mis la main à la poche pour financer les études, autant il ne sera pas en capacité de financer une telle ligne. C'est pas dans ses ressources, c'est pas non plus dans ses prérogatives. Le Grand Paris a été financé en partie par l'État avec une taxe que on paye tous, même les Valdoisiens payent une petite taxe quand vous recevez votre taxe foncière pour réaliser ce projet gigantesque du Grand Paris Express qui sera utile à tous les Franciliens. Il faut qu'il soit aussi utile aux Valdoisiens et donc c'est pour ça qu'on a souhaité mettre politiquement ce projet de ligne 19, parce que si nous, élus locaux, on se dit pas on veut telle chose pour notre département, si on se bat pas pour que notre département soit de plus en plus attractif demain, peut-être que je ne serai plus aux responsabilités, en tout cas je ne serai plus conseiller départemental dans 20 ou 30 ans, mais au moins on aura mis les bases. J'hérite aussi de nombreux projets routier,
bien sûr.
Le PN4, ça fait des années qu'on en parle. On le réalise aujourd'hui. Je suis sur un autre chantier, un autre projet de déviation de la chapelle en Vexin sur la D14. Ça, on en entend parler depuis plus de 30 ans au département.
Oui, de la même façon que... Excusez-moi, je vous coupe, mais de la même façon que vient d'être abandonné le BIP. Enfin, l'extension du BIP, je crois que cette fois-ci, c'est vraiment arrêté.
Voilà,
mais on en parlait depuis 20 ou 30 ans, je crois.
On en parlait depuis 20 ou 30 ans. C'est cette idée de relier la 1, l'autoroute du Nord, à la 15. Et effectivement, le tracé était mal conçu. Ouais. Il faut. Voilà. Et la présidente a souhaité abandonner ce projet.
Encore un mot sur cette ligne 19, est-ce qu'il pourrait y avoir des partenariats, alors publics bien sûr, mais privés, ou voire des financements européens ?
Alors, financement privé, sans doute pas, puisque ce que vous le disiez, on paye tous avec la taxe, cette taxe GPE. Mais on essaie de diversifier effectivement les financements. La région nous aide, l'agglomération de Roissy Pays de France aussi veut nous aider pour ses études. Politiquement, c'est important. Non, l'enjeu, il est politique aujourd'hui. Vraiment, il faudra porter ça au niveau national le moment venu. Pour que les crédits soient alloués et que ensuite l'État dise voilà, on fait ce tracé de ligne 19. Mais après voilà, on a d'autres projets pour la circulation des Valdoisiens dans l'est du département, ces trois lignes de bus qui vont être créées.
Oui, j'allais vous en parler, à haut niveau de service, partant de Goussainville. Précisément Villiers-le-Bel et Garches-Sarcelles.
Exactement, pour relier la plateforme aéroportuaire de Roissy. Roissy, c'est 90 000 emplois directs et 14% des salariés sont valdoisiens. On aimerait qu'ils soient davantage nombreux à bénéficier de ces emplois du premier aéroport européen.
Arriver jusqu'à 95.
Ah, peut-être. Là, ce serait vraiment une ambition, mais après, les autres départements seraient sans doute jaloux, puisqu'on est à cheval sur d'autres départements aussi, mais Roissy est en Val d'Oise. Et moi, quand je discute avec les entreprises de la plateforme, le principal frein, c'est l'accès. C'est plus de 70% des salariés qui se rendent à Roissy en voiture. Mm-hmm. Quand je parlais de décarbonation, oui, vous avez la possibilité aujourd'hui d'aller sur Roissy avec le RERB. Bon, difficile pour un Val-d'Oisien. Demain, le réseau ferré va se développer avec la ligne 17 qui va relier Roissy, le Grand Paris Express qui va relier la capitale à Roissy directement, le RERB qui sera de facto amélioré parce que les voies vont être régénérées. Vous allez avoir le Roissy-Picardie avec une halte. On s'est battu pour, à la gare de Survilliers, des Val-d'Oisiens pourront aller à Roissy en 5 minutes. Aujourd'hui, il faut 40 minutes en bus pour s'y rendre. Voilà, c'est
le
faire. Et l'air ne sont pas opposés. Au contraire, il faut que cette plateforme soit reliée davantage. Et c'est le but aussi de ces bus à haut niveau de service. C'est des lignes dédiées, c'est-à-dire que nous, au département, nous allons réaliser des routes départementales avec des voies dédiées aux bus. On l'a fait sur Gonesse avec la ligne 20. C'est-à-dire que les bus ne seront plus dans les bouchons, mais circuleront directement pour aller d'un point A à un point B et sans avoir de fiche horaire. Vous aurez votre bus à haut niveau de service, c'est-à-dire toutes les 10-12 minutes. Mmh. Vous n'aurez pas besoin de vous dire « Ah bah tel bus passe à 10h44 ».
Ils ne sont pas bloqués par les bouchons.
Et ça, c'est un intérêt fabuleux et ça permettra aux habitants du Pays de France de relier la plateforme de Roissy.
Catherine a une question à vous poser.
Oui, alors moi je vais prêcher pour ma paroisse, vu que j'habite Hermont, et la gare d'Hermont-Aubonne est aussi un gros centre, et effectivement ça fait plus de 10 ans, voire, bon, peut-être je me trompe, qu'on entend parler d'une liaison ferroviaire, par contre, qui à l'origine c'était de Cergy à Roissy en passant par Aubonne. Bon, la technique, c'est pas mon rayon, mais comme là vous parlez de transversalité, sur cette ligne 19 partant de la Défense, c'est dans 20-30 ans, mais qu'en est-il finalement de cette reliance où là vous êtes du côté est avec là où vous travaillez et tout ce pôle Gonesse, Goussainville, mais il y a quand même un gros nœud au niveau d'Hermont-Aubonne et aux alentours, dont peut-être Enghien fait partie, justement, pour la reliance à Roissy, où on est obligé de passer par Roissy, par Paris, ce RER qui fonctionne pas terrible, ou etc. Et ça, c'est un réel besoin, parce qu'on n'est pas si loin de Roissy. Et pour la route, finalement, ça l'encombre encore plus à partir de la Croix Verte.
Eh ben, vous mettez de l'eau à mon moulin.
Voilà, mais oui, bien sûr.
Parce que vous voyez bien que il y a un intérêt départemental dans cette ligne 19. Quand je vous dis de la Défense à Roissy, c'est aussi passé par le Val d'Oise et je dirais que le nœud que vous appelez d'Hermont-Aubonne est un argument fort pour l'opération de la ligne 19. Je pense que idéalement, il serait bon de passer par ce secteur.
Et Cergy.
Alors Cergy, c'était un peu plus haut, voilà, ce secteur est essentiel pour désenclaver le département et évidemment que les Hermontois, les Aubonnais n'aient pas besoin d'aller sur Paris pour aller à Roissy. Donc oui, l'idée c'est de traverser le Val d'Oise.
Mais moi je veux
dire précisément, je peux pas vous dire
l'antériorité des 20 ans, 30 ans.
Alors un truc. En revanche, je m'adresse encore à Maya et Catherine. Vendredi était Madame Kavecki, enfin le conseil départemental a lancé c'est une journée pour le lancement de soutien de cette ligne 19. Donc il y a on peut signer, hein, une une sorte de pétition hein, pour encourager cette ligne 19. Donc vous allez sur le conseil départemental et puis voilà, vous serez acteur, actrice de ce projet.
L'info du département, vous l'avez retrouvée dans... Parce que c'est vrai que, bon, il y a un effort de communication à faire. Tous les deux mois, vous recevez le Val d'Oise Magazine. Là, vous avez un peu notre bilan qui est fait. Et vous retrouverez à chaque fois, enfin, en tout cas souvent, parler de cette ligne 19. Les assemblées départementales, alors c'est peut-être un peu
un peu plus passionnant parce que c'est peut-être
un peu administratif, mais de temps en temps, vous pouvez retrouver sur le Facebook du département, sur le site du département, une fois par mois, la séance départementale. Elle vous permet de voir un peu toutes les politiques qui sont votées par le département. Et effectivement, vos conseillers départementaux, ils sont souvent sur le terrain. En tout cas, moi, dans mon canton, je laboure le terrain pour parler de l'action départementale. Mais il faut le faire. C'est nombreux. Enfin, on a un très beau département. On parlait de bien-être, on parlait de circulation. Prenez la voiture, prenez le train, prenez le vélo pour découvrir ce
département qui est magnifique.
Le Vexin, le Pays de France, les paysages sont.
Pierre Fuchely qui dit tout le temps que c'est le plus beau département de.
C'est une France miniature.
De la France.
C'est une France miniature. On a un côté rural, on a un côté urbain, on a un réacteur économique, le pôle de Roissy, on a une ville étudiante avec Cergy, on a un patrimoine fabuleux, par les Maubuisson, il y a l'abbaye de Royaumont, le château des Coins, Auvers, Van Gogh a peint nos beaux paysages, il faut aller les découvrir ces paysages parce que ils sont beaux, ils font du bien à l'esprit aussi.
Merci infiniment, Tony Archiro, d'être venu démontrer l'engagement concret du département, du conseil départemental à servir quotidiennement l'intérêt général. Merci à vous.
Merci.
Alors, l'émission arrive bientôt à sa fin. On a une tradition. Je redonne la parole à mes trois invités avant de nous quitter. Je vais reprendre l'ordre que nous avions. Donc, Maya, un mot avant de nous quitter.
Oui, avec plaisir. Je trépigne.
Alors,
c'est le moment des merci, bien sûr. Alors, je voudrais remercier toute l'équipe du Bureau Santé Essentielle qui a vraiment participé, œuvré, parce qu'on avait un challenge quand même. On a rencontré Marie Ménestrier, directrice de Maubuisson, il y a 6 mois, qui nous a dit « Go, il faut que ce soit au mois de juin maintenant », alors que moi, je pensais me reposer un peu après le dernier salon. Donc voilà, un vrai challenge. Donc toute l'équipe a beaucoup travaillé pour la réalisation de ce festival et ce premier événement. Donc merci à l'ensemble du bureau, merci aux festivaliers pour ces rencontres, ces propositions, cette créativité. Et puis bien sûr, maintenant tout va se jouer dimanche, hein, donc ça j'ai hâte de voir. Merci à l'équipe de Maubuisson parce que honnêtement, ils sont extraordinaires, vraiment. On va avoir là pour dimanche 4, 5, 6 personnes à notre entière disposition pour parer à toute éventualité, toute difficulté.
Vous épanouir totalement.
Ils vont nous aider à construire les choses parce qu'évidemment, au dernier moment, j'ai eu encore des idées pas possibles à mettre en place. Donc, ils sont extraordinaires.
Grand
merci à Maubuisson. Franchement, je recommande d'aller visiter ce lieu et évidemment de venir dimanche. Et j'ai une toute petite demande puisque... Je profite de cette parole, de ce lieu de parole. C'est vrai que je dirais que la plus grande difficulté quand on réalise un événement comme ça, c'est pas tant de mobiliser des forces, des idées, tout ça c'est ok, c'est vraiment la communication. Donc on vient le faire ici à la radio, mais c'est vrai que si on pouvait profiter un tout petit peu d'une certaine façon du département et de ses sources de communication pour déployer nos projets et pour, j'espère, pouvoir le refaire l'année prochaine, j'aimerais beaucoup un contact au département pour pouvoir mieux communiquer et faire passer l'information du festival de l'année prochaine. Bon. Merci.
On verra ça en off avec Anthony. Merci Maya. Catherine, un mot de conclusion.
D'ailleurs, sur cette expérience radiophonique, donc déjà chouette. Merci Maya. Merci Maya. J'ai été ravie de vous rencontrer. Vraiment sincèrement.
Anthony,
oui, vous tout êtes... à fait. Oui. Et puis, je dis, venez au festival, parce que là, pour le coup, il y aura des
incontournable.
Pépites. C'est incontournable, justement, par sa différence que tu as mentionnée au début sur le salon. La formule festival et ce qui va être proposé n'a rien à voir avec un salon bien-être. Donc, des nouveautés, des découvertes et des choses très, très atypiques.
Très bien. Merci infiniment.
Et merci pour l'invitation.
Catherine, je vous en prie.
Juste, si je peux permettre, allez voir si vous voulez pour découvrir le programme de dimanche sur le site santéessentiel.fr.
Très bien.
Vous aurez tout le déroulé du programme.
Et tout se retrouvera sur le podcast qui va être mis en ligne dans quelques heures.
Merci.
Anthony Archiro, le mot de la fin est pour vous.
Découvrez le Val d'Oise, ses pépites, je le redis. On en a parlé avec si vous avez besoin d'idées sur ce fascicule Sortie Nature que vous retrouvez dans vos mairies ou sur le site du département. C'est un territoire qui mérite d'être découvert et puis suivre les actions publiques que le conseil départemental met au service des Val-d'Oisiens et à chaque moment de sa vie.
Merci infiniment. Ben, merci à tous les trois déjà nous avoir permis, enfin d'avoir été les invités en direct avec. J'ai trouvé une bonne synergie qui a fonctionné. Ouais. Et puis merci de nous avoir permis d'explorer en détail vos missions respectives.
Merci beaucoup.
Merci Nicolas pour la technique. Merci à vous tous auditrices et auditeurs de nous avoir suivis. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son podcast sur le site de IDFM Radio 98.fr. Mardi prochain, nous retrouverons la CPME du Val d'Oise. Alors à mardi. D'ici là, belle journée et bon week-end.